Porter du fruit, la fécondité de nos vies. C'est au cœur même des lectures de ce jour et au cœur même singulièrement de l'Évangile et j'allais dire du mystère de Pâques. Qu'est-ce qui rend notre vie féconde? Qu'est-ce qui fait que l'on porte du fruit? Alors la fécondité, pour beaucoup de personnes, c'est bien souvent lorsqu'ils forment une famille, eh bien on dit la fécondité, c'est les enfants, oui, c'est sûr, même si parfois c'est compliqué d'avoir des enfants, mais attention, même si vous êtes parents, voire grands-parents, la fécondité dans la vie chrétienne, et c'est ce qui nous distingue du judaïsme, et la fécondité dans la vie chrétienne ne consiste pas en la prolongation de nous-mêmes à travers les enfants. C'est intéressant de voir que Jésus appelle à porter du fruit et un fruit qui demeure parce que nous demeurons attachés à lui. C'est-à-dire que nous demeurons attachés à ce qu'il nous a donné, au charisme qu'il nous a donné. Qu'est-ce qu'un charisme? Il y a plusieurs interprétations et peut-être dans l'Assemblée des personnes plus capables que moi de définir un charisme, mais je le définirai comme ça. Un charisme, c'est faire facilement ce que d'autres font difficilement. Faire facilement ce que d'autres font difficilement. Vous avez le charisme, par exemple, de la prière. Vous avez le charisme de l'accueil. Vous avez le charisme de l'écoute. Vous avez le charisme de l'annonce. Vous avez le charisme d'aller à la rencontre des personnes qui sont sur les marches de notre société et qui n'osent pas rentrer, qui sont dans une situation de précarité. Bref, il y a multiplication de charisme. Donc, la première question, me semble-t-il, à se poser pour la question de la fécondité de sa vie, quel est le charisme? Et moi qui m'implique beaucoup dans la préparation au mariage et l'accompagnement des couples, je viens poser cette question un peu déstabilisante au couple. Quel est le charisme de votre couple? Quel est le charisme de votre couple et aux couples qui sont dans l'assemblée? Je me pose la question. Parce que déjà, soi-même, c'est pas forcément évident de définir ses charismes. À deux, c'est encore plus complexe. Quel est le charisme de votre couple? Posez-vous la question et certainement vous aurez, pendant toute cette célébration, l'occasion d'y réfléchir et dans la voiture de partager sur le charisme de votre couple qui, je n'en doute pas, est abondant. Mais du coup, le charisme, je me dis, tiens, dans la première lecture, comment est-ce qu'on valide quelque part? Qu'est-ce qui fait qu'on ne tombe pas dans l'imagination? Qu'est-ce qui fait qu'on ne tombe pas dans l'imagination? On pense que c'est notre charisme, c'est ceci, mais en fait, pas du tout. Il y a des gens qui se croient tout à fait investis d'une mission, ils sont tout à fait en dehors de la plaque. Qu'est-ce qui fait qu'on ne tombe pas dans l'imaginaire? Eh bien, je trouve la première lecture, elle est vraiment formidable de ce point de vue-là. Parce que dans la première lecture, on voit Barnabé qui introduit Saul, Paul de Tarse qui s'est converti, qui introduit Saul dans la communauté des apôtres, et le présentait aux apôtres, raconta sur le chemin ce que Saul avait vu le Seigneur, etc., alors que tout le monde croyait que c'était quelqu'un qui voulait tuer les chrétiens, et eux-mêmes, lui, Paul était, Saul était menacé par d'autres. Et je trouve que ça donne une piste. Au fond, la relation avec l'autre vient confirmer le charisme. La communauté vient confirmer le charisme. Un charisme a besoin d'être confirmé. Et c'est ça qui va me permettre de porter du fruit au fond. C'est de se dire, tiens, c'est pas juste le fruit d'une imagination, parce que c'est vrai que l'histoire de Paul de Tarse avec le chemin de Damas, c'est quand même particulier. Je veux dire, c'est pas banal. Vous voyez une grande lumière, vous tombez par terre. Entre parenthèses, il n'y avait pas de cheval. Je ne sais pas pourquoi tout le monde veut faire tomber Paul de son cheval, mais il n'y avait pas de cheval. Mais il se tombe par terre, ça, il est ébloui, il est aveugle. Et quelqu'un d'autre lui ouvre les yeux, c'est intéressant aussi. Hein, Anani qui lui ouvre les yeux. Donc, je vous dis, c'est intéressant. Au fond, cette histoire pas banale de persécuteur de l'Église, le type c'était vraiment, vraiment zélé dans la foi, dans la foi de ses pères, comme pharisien, etc. Bon, il le dira lui-même, hein, persécuteur de l'Église. Hein, comme il a participé et approuvé le martyr de Saint-Étienne. Donc voilà, c'est un homme violent. C'est un homme violent. Et tout d'un coup, il y a un effondrement dans sa vie. Il y a comme une lumière dans sa vie qui lui fait basculer. Et qu'est-ce qui fait qu'il va, qu'on va reconnaître, que la communauté va reconnaître, c'est que précisément il va être en lien avec l'autre. Et que ça n'est pas seulement une imagination de sa part à lui qu'il est appelé par le Seigneur, il est vraiment reconnu par l'autre. Et je trouve que c'est intéressant que nous puissions, peut-être nous ne faisons pas suffisamment, mais demander d'être confirmés dans les dons que nous avons reçus. Parce que charisme en grec, ça veut dire don. Confirmer d'être dans les dons pour justement nous dire, tiens, parce que ce don-là, il fait du bien à d'autres. Et il est en relation avec d'autres. Et ce don-là, il me donne de la joie. Et je crois que le Saint-Esprit nous appelle justement à une fécondité chaque fois que nous sommes dans cette attitude d'humilité, de demander, voilà, j'ai reçu ça dans la prière, comme Paul a reçu une vision. Tout le monde ne reçoit pas de vision, bon, c'est. Voilà, mais bon, en tout cas, dans la prière, on peut. Ou alors d'autres vous disent. On voit beaucoup, par exemple, dans la Bible, il y a des tas de. Les prophètes, c'est les autres qui disent, tu es appelé à ça. Tu as un charisme pour ça. Bon, ok, d'accord, je ne savais pas. Donc, prendre la communauté comme un lieu de discernement. Prendre l'attachement à ma communauté. Alors, la communauté la plus proche de chacun, c'est notre famille. Ou la communauté aussi de foi, etc., notre communauté à nous, notre petite communauté de la paroisse, etc., de prendre ça comme un lieu de discernement et un lieu de confirmation. Un lieu de confirmation, comme Barnabé a présenté, a pris Paul par la main, Paul et Barnabé, puis ensuite ils se sont disputés, etc., parce que bon, Paul avait certainement un caractère assez impossible à vivre. Ça, il n'avait pas le charisme de la douceur ou de. Voilà. Donc il avait d'autres choses, mais bon, il n'avait pas celui-là. Donc du coup, voilà. Bon, mais il se trouve que c'est Barnabé qui l'a conduit aux apôtres. Voilà. Donc je trouve ça intéressant de dire la communauté comme un lieu de discernement, de confirmation de la fécondité que je peux prendre, des fruits que je peux porter. Et voilà. Et ça veut dire aussi soi-même être attentif aux motions du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous sommes dans cette grande préparation à la Pentecôte, et donc, évidemment, nous sommes invités à une vie intérieure, à développer la vie intérieure, et soyons attentifs de ne pas être les analphabètes de nous-mêmes. Analphabètes de nous-mêmes, c'est-à-dire nous laisser entraîner par des forces centrifuges qui nous emmènent loin de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie et qui nous empêche de discerner les charismes et les dons. Donc ça veut dire, ça va avec la communauté et la vie intérieure, la vie contemplative. Et posons-nous la question, quelle est la dimension de la vie contemplative dans nos existences? Je pense que c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Puis Saint Jean dit, voilà, au fond, porter du fruit, c'est avoir cette assurance devant Dieu. Si notre cœur nous accuse, eh bien nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur. Parce que nous gardons ses commandements, nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Et son commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Voilà, c'est au fond demeurer, ça viendra beaucoup dans Saint Jean, on le verra dans l'Évangile aussi. C'est intéressant de voir au fond que ne pas perdre, ce qui fait qu'on porte du fruit, c'est de ne pas se décourager. Ne pas se décourager de découvrir justement que malgré nos fragilités, nous sommes appelés à porter du fruit, malgré nos défauts, on voit avec le grand saint Paul et son caractère impossible, et vous avez comme ça un certain nombre de saints qui avaient des caractères impossibles, par exemple Saint Jérôme, il était infernal à vivre. Moi je déconseille de vivre avec Saint Jérôme, il se trouve qu'il est mort, donc c'est plus facile aujourd'hui, mais du coup il a terminé ermite dans une caverne, alors que c'est lui qui a la parole de Dieu, voilà, c'était ça, voilà, mais il insultait les autres, c'était infernal. Bon, mais il a eu ce charisme de la parole de Dieu, de transmettre la parole de Dieu, d'approfondir la parole de Dieu, etc. Et puis pareil, par exemple, Saint Thomas d'Aquin n'avait pas du tout le sens de l'humour. Par exemple, un de ces dominicains, comme vous le savez, donc on est au 13e, 2e, 13e siècle, etc. Et il y a un de ses frères qui dit, tiens, il y a une vache qui vole. Et pour rire, dans la vie souvent, on aime bien les blagues. Il dit, je préfère croire qu'une vache vole qu'un frère mente. Waouh. Vous dites, vous vous dites, celui-là, c'est pas marrant. C'était pas un marrant. Voilà, ben voilà. C'est intéressant de dire, tiens, au fond, à la fois la confirmation et l'accueil, si notre cœur nous accuse, croyons que Dieu est plus grand que notre cœur, que nous avons des tas de limites. Les limites ne sont pas un obstacle à notre fécondité, à porter du fruit. C'est intéressant. La limite n'est pas un obstacle à porter du fruit. C'est, ça fait partie de notre humanité. Et par définition, humanité, ça veut dire limite, ça veut dire humilité. Et c'est ça qui fait l'humilité, c'est humus. Vous entendez humus, et humus, vous entendez terre. Et donc, c'est la terre dans laquelle nos charismes vont pouvoir s'étendre et porter du fruit. Et puis pour l'évangile, c'est intéressant cette comparaison avec la vigne et les sarments, comme pour dire qu'on est vraiment greffé sur le Christ. Hein, c'est le sarment qui ne demeure pas en moi, etc. Celui-là se dessèche. Je trouve que c'est intéressant que nous puissions méditer, de dire, tiens, qu'est-ce qui en nous peut-être est desséché, qu'est-ce qui en nous est source de vie, est vivant, est vivifiant, est vivifié, parce qu'il est connecté au Seigneur. C'est source de vie. Et qu'est-ce qui en nous, parce que ces deux serments, celui qui est connecté, celui qui ne l'est pas, ils sont en nous. C'est pas l'autre qui est, non, c'est en nous qu'il y a les deux serments. Et donc de se poser la question, tiens, qu'est-ce qui me donne une vie? Qu'est-ce qui fait que je suis vraiment vivant? Que je sois vraiment une personne à la fois plein de limites et à la fois lumineux et de mes blessures, hein, comme Jésus, hein, dans ses blessures nous trouvons la guérison, de mes blessures viennent aussi une lumière, hein, deux rayons sortent de ses mains, c'est là que ce qui a caché sa puissance, dit l'Écriture, mais évidemment on pense au Christ crucifié, metta, ton doigt dans les traces de mes mains, dans les plaies de mes mains, voilà. Je trouve, qu'est-ce qui fait en nous justement, qu'est-ce qui est vivifiant, qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui nous donne de la joie, ce sera notre chemin de sainteté. Ce sera notre chemin de sainteté. Et c'est beau de dire, voilà, c'est par là que le Seigneur passe. Et puis en nous, il n'y a pas que la vie, etc. Qu'est-ce qui est mortifère, qu'est-ce qui... Voilà, une sorte de tristesse entretenue, vous voyez, une sorte de découragement entretenu, une sorte, voilà. Et je sens que ça, c'est pas ce que veut le Seigneur en moi. C'est une sorte de victimisation. Je me positionne comme une victime, etc., etc. Bon, un certain nombre de choses. Et je me dis, tiens, au fond, le Seigneur nous demande à demeurer en lui, précisément à peut-être faire un discernement spirituel, hein, et donc un combat intérieur, je dis, voilà, de déraciner, hein, en nous ce qui peut être source de, au contraire, de tristesse, de manque de vitalité, et de parier sur, dans nos vies, sur la joie, et de parier à la fois sur cette capacité de porter du fruit et cette lumière qui nous habite. Alors, c'est vrai que ces sarments, je suis la vigne, vous l'êtes les sarments. Comment est-ce qu'on est greffé au Christ? Parce qu'on peut se dire, mais c'est quand même pas intuitif. Comment est-ce qu'on est greffé au Christ? Comment? On prend souvent la greffe avec le baptême, voilà. Donc, on n'est pas dans une terre de vignoble ici, mais c'est intéressant de s'intéresser à la manière de cultiver la vigne. Justement, c'est par la greffe que la vigne porte du fruit. Eh bien, je trouve que, en fond, la communauté, certainement, la vie contemplative, mais c'est tant que nous vivons d'Eucharistie, c'est ça qui va vraiment nous permettre de nous reconnecter, pour employer peut-être un mot plus actuel. L'Eucharistie, c'est une pédagogie, vous voyez, c'est une pédagogie, c'est ce qui nous permet on appelle ça le pain d'effort, c'est de reprendre courage. Si ton cœur t'accuse, ben Dieu est plus grand que ton cœur, eh bien c'est dans l'Eucharistie que nous puisions cette force. C'est là où on va reprendre conscience que nous sommes des hommes et des femmes habités. Le chrétien n'est jamais seul. Le chrétien n'est jamais seul. Nous sommes habités. Nous portons en nous-mêmes plus grand que nous-mêmes. Et nous sommes les seuls à croire ça. Les seuls dans toutes les religions, nous sommes les seuls à croire que nous portons en nous-mêmes plus grand que nous-mêmes. Parce que nous sommes la religion de l'incarnation, évidemment. Parce qu'il y a une Pâque Et cette Pâque, eh bien, le Seigneur nous dit, voilà, est-ce que tu vas faire, tu vas parier sur ça, sur ce qui t'habite, sur moi qui t'habite par le Saint-Esprit. Et aussi, moi, je suis très convaincu de quelque chose aussi, ben, de dire aussi à des personnes peut-être qui ou ne sont pas baptisées ou ne sont d'autres confessions, voilà, ou pas de confession du tout, ben, dans le bien que tu fais, moi, je découvre le Saint-Esprit. Dans le bien que tu fais, moi, je découvre l'œuvre de Dieu. Même que tu n'es pas peut-être tu ne partages pas mes convictions spirituelles, mais là, quand je te vois agir, je dis, cet homme, cette femme est mue par l'Esprit du Seigneur. N'ayons pas peur de le dire, ça. On ne le dit peut-être pas assez. Alors on va demander à Jésus, vraiment dans cette dernière ligne droite, pour ainsi dire, avant la Pentecôte, voilà, de reprendre conscience de l'Esprit du Seigneur. Je vais vous donner la bénédiction solennelle de l'Esprit Saint, qu'on donne en général le jour de la Pentecôte, mais justement il y a une Pâque, vous savez, une Pâque c'est pas ça, il y a quelque chose à changer dans nos manières de faire, qui fait que la fécondité de nos vies est un critère de choix, de discernement dans nos existences. Et ça passe parce que tout ce que nous dit la parole de Dieu, et j'ai tenté de méditer avec vous, c'est un critère de choix. C'est de faire, de porter du fruit, c'est ça la vraie question de nos existences. De rayonner, d'aller au-delà de soi-même, de découvrir au fond que nous sommes invités à un ailleurs, à un horizon. Alors il y a un passage, il y a une manière de vivre différente, demeurer comme des personnes habitées. Habitées pour devenir des témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.